Béni soit l'Éternel. Ce matin, nous allons méditer ensemble sur une pensée qui est prise d'un verset du psaume 42. Le texte dira « Je dis à Dieu mon roc, pourquoi ?» Mais nous allons lire le psaume ensemble à partir du verset 2, donc du psaume 42, verset 2 au verset 12. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu ? Voici pourtant ce dont je me souviens avec effusion de cœur. Je marchais avec la foule, et je m'avançais avec elle vers la maison de Dieu, au milieu des acclamations et de la reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis sur moi ? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet, c'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Un abîme appelle un autre abîme, un bruit de tes cascades, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance et la nuit, son cantique m'accompagne. C'est une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ? Mes os se brisent. Quand même mon adversaire me déshonore, en me disant tout le temps, où est ton Dieu ? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis sur moi ? Attends-toi, Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. En lisant ce texte, il y a différentes phrases qui nous interpellent et qui parcourent un peu les divers moments d'une vie, n'est-ce pas ? Il y a des moments différents dans une vie, il y a des temps différents dans une vie et ce psaume est parsemé d'expressions et de déclarations que nous pourrions dire personnelles, intimes. Des paroles d'adoration comme le verset 2 et verset 3, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un a soif ce matin ? Du Dieu vivant. Il n'est pas question pour nous de chercher une source différente, mais il est question pour nous encore ce matin de dire, Seigneur, je veux de l'eau vive, celle que toi seul tu peux donner parce que tu en es la source. Parole de foi, verset 9, 10, verset 12. Il dit, le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance, la nuit, son cantique, pardon, m'accompagne. Dans les moments de difficulté, on sent la présence de Dieu malgré les épreuves qui sont là, jour et nuit. Et quelle grâce pour nous de pouvoir dire, je dis à Dieu mon roc, le verset 10. Et il dira encore verset 12, pourquoi t'as battu mon âme et gémis sur moi ? Attends-toi à Dieu. On pourrait croire que c'est un peu un monologue, mais en réalité, il y a un moment la question, et on ne sait pas combien de temps se passe avant d'avoir la réponse, ou en tous les cas, que l'âme ait un sursaut et qu'il prenne une décision, qu'il prenne une direction. Il y a aussi des paroles de souvenir, de témoignage. Le verset 5 qui dit « Voici pourtant ce dont je me souviens avec effusion de cœur. Je marchais avec la foule, je m'avançais avec elle vers la maison de Dieu. » Chacun d'entre nous, nous pouvons certainement encore ce matin témoigner de toutes les fois où Dieu est venu à notre secours. Des moments peut-être, excusez-moi, un peu d'insouciance où on allait bien, tout allait bien, on allait à l'église, on était heureux, il n'y avait pas de soucis, pas de choses particulières. Et on se disait, Seigneur, voilà, je viens dans ta maison, peut-être certains ce matin, et Dieu merci, n'ont pas de soucis. Ou en tous les cas, les soucis ne sont pas trop lourds. Hein, parce que des soucis, bien ou mal, on en a tous, mais parfois ils sont lourds à porter. Il y a un texte dans le livre de l'Ecclésiaste qui nous parle du temps. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 11. Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher les plants, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser des pierres, un temps pour étreindre, un temps pour s'éloigner de l'étreinte, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine et qu'il prend ? J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Tout ce qu'il fait est beau en son temps. Et même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Amen. Les différents temps de la vie, les différents moments, et tous ces temps sont nécessaires parce que finalement, elles rythment notre existence, elles nous amènent tout doucement sur un cheminement que Dieu a préparé d'avance pour nous. Il pourrait sembler que la vie, elle est plate. Certains pensaient que la terre était plate. Ils ont dû revoir la copie. Hein ? Elle est ronde, elle est légèrement écrasée, vous savez ? C'est étonnant, hein ? C'est fait dans un sens bien précis. Moi, quand je regarde la nature, quand je vois tout ce que Dieu fait, je retrouve toujours l'empreinte de Dieu. Vous aimez les cercles parfaits ? Hein ? Je ne sais pas, à l'école, vous avez eu l'habitude d'utiliser un compas ? On a tous été torturés par cet objet. Hein ? Il fallait que le cercle soit parfait, que le trait soit le même du début à la fin, qu'on ne voit pas le début et qu'on n'entrevoit pas la fin. Ah, j'avais un prof qui était méticuleux sur ça. Et quand on voit la terre, est-ce que Dieu était capable de la faire ronde, parfaitement ronde ? Et pourquoi il a fait ça ? Mais il y a des raisons que nous, on ne comprend pas, ou en tous les cas, on ne peut pas analyser toujours. Mais à chaque fois, Dieu agit, œuvre, transforme, produit, permet. Et comme le texte nous le dit, il fait tout pour que finalement l'homme soit amené dans un état de cœur, dans un état d'esprit, qui finalement se défait de tout ce qui est inutile, superflu. Et il arrive au sens réel de la vie. Il y a des moments, vous savez, quand on se retrouve, entre guillemets, face à un mur, on se dit à quoi ça sert tout ce que j'ai pu cumuler. Je suis face au mur, non ? Quand on est touché dans notre santé, on est malade, on se dit, Seigneur, finalement, la vie est peu de choses. Seigneur, dans telle ou telle situation, il y a tellement de remises en question. Et je crois que Dieu a le droit de nous remettre en question. Mais quand Dieu nous remet en question, parfois, il y a quelque chose qui se produit dans le cœur de l'homme qui est devenu automatique. Ça fait partie de l'être humain. C'est de se poser des questions. Est-ce que vous vous posez des questions ? Une ou deux par jour ? Dans ce texte, vous avez certainement fait attention, dans le texte, le psaume que nous avons lu, il y a plusieurs choses, mais il y a quelque chose de particulier, c'est que le psalmiste dira « Pourquoi ?» Pourquoi ? Il m'est arrivé à entendre dire qu'il ne faut pas demander à Dieu « Pourquoi ?» Avez-vous eu, vous aussi, cette phrase, peut-être un jour, on ne dit pas à Dieu « Pourquoi ?» Et la réalité, elle est différente, parce qu'en réalité, aucun doute est fait que tout arrive, et certes, arrive avec un but, mais tout et entre les mains du Seigneur, mais la parole de Dieu nous dit que la pensée de Dieu n'est pas notre pensée, et qu'elle est bien plus élevée. Donc quand on a besoin d'apprendre, forcément il y a besoin de comprendre. Et pour comprendre, on a besoin de dire « Seigneur, pourquoi ?» Non pas dans le sens de dire « Seigneur, je ne te fais pas confiance », mais « Seigneur, j'ai besoin que tu m'expliques. J'ai besoin que tu m'aides à saisir. Le divin potier œuvre et agit pour nous modeler. Et parfois, il y a des passages dans notre vie qui sont durs, non ? Il y a des obstacles, il y a des choses qui ont besoin d'être enlevées. Je regardais dernièrement quelqu'un qui travaillait de la terre cuite, hein, avant de la cuire, bien évidemment. Hein. Mais il enlevait, il y avait des petits cailloux parfois. Un petit caillou, pas grand-chose. Mais il dit, il faut que ça soit propre. Il ne faut pas qu'il reste des impuretés. De la même manière, Dieu œuvre pour qu'il n'y ait pas d'impureté dans notre cœur. À cause du péché, l'impureté est rentrée dans le cœur de l'homme et il a fait de nous ce que nous sommes. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était pur. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient purs. Quelqu'un va dire, mais attends, ils se promenaient tout nus. Ben oui, mais il n'y avait pas ce regard malsain et je dirais déplacé que le péché a amené. D'ailleurs, c'est parce qu'ils ont péché qu'ils ont vu leur nudité. Et c'est ce qui finalement les a amenés à se cacher du regard de Dieu. Mais Dieu a œuvré pour les couvrir, alors qu'ils s'étaient couverts avec des feuilles, chose qui était insuffisante, c'est l'œuvre de l'homme. L'homme essaie de se couvrir comme il peut. Mais il a fallu qu'il y ait le sacrifice d'un animal et que Dieu les couvre déjà par le sang du sacrifice, mais surtout la peau de l'animal était devenue après pour eux leur tenue vestimentaire. Dans notre cœur, dans notre vie, nous avons besoin que Dieu enlève ce qui est un impureté parce qu'on ne pourra pas rentrer dans le royaume de Dieu, on ne pourra pas se présenter devant Dieu avec des impuretés de ce qui est notre vie ici-bas. On doit être conscient qu'on a besoin d'être passé au tamis. D'ailleurs, je vous rappelle qu'à un moment, Jésus dira à Pierre, « Pierre, Satan a demandé à vous passer au tamis. » Quand tu seras converti, affermis tes frères. Quelle est ton nom de question ? Quel est ton nom discours ? Pourquoi Jésus dira à Pierre quand tu seras converti ? Pierre n'était-il pas converti ? Dites-moi, est-ce que Pierre était converti ? Qui pense que Pierre était converti ? Qui pense que Pierre n'était pas converti ? Ah, ça peut lancer un grand débat. On pourrait se dire, mais s'il était converti, pourquoi Jésus lui dit, Pierre, quand tu seras converti ? Et s'il n'était pas converti, pourquoi Dieu l'a pris avec, le Seigneur l'a pris avec lui ? Il a fait des miracles, est-ce que le Seigneur se servirait de personnes inconverties ? Mais je vous rappelle que finalement, que ce soit Pierre, Jean, Jacques et tous ceux qui étaient avec eux, ils avaient finalement besoin de reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, celui qui avait payé le prix à la croix et que de mort, il est ressuscité. Il avait besoin d'une révélation véritable de qui est Jésus, non pas basée sur l'expérience d'avoir accompagné Jésus dans son voyage et d'avoir vu Jésus faire plein de miracles. Certes, c'était une réalité, mais ils avaient besoin de voir Jésus et en Jésus, le Fils de Dieu, le Messie. Je vous rappelle qu'encore aujourd'hui, pour beaucoup de Juifs, attendent la venue de Messie, alors que le Messie est venu, et c'est Jésus. Maintenant, nous, on attend le retour. C'est bien autre chose, c'est une autre étape. Mais pour ceux qui sont restés bloqués dans cette pensée, malheureusement encore, excusez-moi de dire cela, ils ont besoin de se convertir. Il y a besoin d'un changement. Si on voit Jésus simplement comme un homme qui produit des miracles, ce n'est pas pour autant que nous sommes convertis. On a besoin de le voir comme le Fils de Dieu. Dans la parole de Dieu, il nous parle des épreuves, des difficultés, parce qu'elles produisent en nous quelque chose. Jacques chapitre 1, versets 2 à 8, il dira « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Relisez dans votre tête cette phrase. Mes frères, mes sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. J'entends pas d'amen. Ça veut dire que finalement, on se dit d'accord, les épreuves, elles sont là, je ne peux pas les éviter, elles font partie de la vie, mais de là à me réjouir, Seigneur, j'ai besoin d'un peu plus de temps, non ? La suite, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfait et accompli et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Nous avons besoin d'apprendre la patience. Alors c'est vrai qu'il y a des endroits, il y a des régions, il y a des villes où les gens ils sont plus patients qu'ailleurs. Mais je n'ai pas encore trouvé cette ville. Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous avons besoin de faire ce parcours avec Dieu parce qu'il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que nous soyons parfaitement accomplis et qu'il ne nous manque rien. Si ce matin, quelqu'un considère qu'il est accompli, parfait, qu'il ne lui manque rien, je vais te dire, prépare-toi à rejoindre le Seigneur aujourd'hui même. C'est le temps, hein? Parce qu'en réalité, puisque c'est la préparation pour pouvoir rejoindre notre Seigneur, si tu es déjà arrivé à cet état-là, dis au revoir à tout le monde. Dans la parole de Dieu, me parle d'un homme qui marchait avec Dieu, tellement il marchait avec Dieu que Dieu le prit avec lui. C'était qui ? Enoch. Pas Enoch et sa famille. Pas Enoch et sa femme. Certainement, chacun d'entre nous, nous avons un parcours personnel et c'est une décision personnelle. Alors, on a besoin que Dieu nous amène dans cette transformation, dans ce changement. Mais dans la lecture que nous avons faite ce matin, il y a cette fameuse question « Pourquoi ?» Pour apprendre, on a besoin de comprendre. Et parfois, on pose nos questions et on prie, on demande mal, dit la parole de Dieu. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais qu'est-ce qu'on demande dans nos prières ? Très souvent, dans nos prières, on demande à Dieu, « Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, accorde-moi cela. Seigneur, tu vois, fais ceci, fais cela. » Et à quel moment on dispose notre cœur pour poser des questions à Dieu en disant, « Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à comprendre. Instruis-moi, Seigneur. Seigneur, parle à mon cœur. » Et on prend le temps de l'écouter. On prend le temps de laisser Dieu, finalement, établir un silence qui est nécessaire. C'est dur, le silence, hein. Quand je laisse trop de temps dans le silence, je sens une certaine forme de... Comment dire ça ? On se dit, bon, allez, c'est bon, allez, vas-y, va à la suite. Dis-nous, qu'est-ce que tu veux dire ? Mais Dieu est patient. Hein ? Et parfois, le silence de Dieu est aussi un message. Quand Dieu ne nous parle pas, c'est que certainement, nous avons besoin, avant que Dieu nous parle, de disposer véritablement notre cœur à accepter ce que Dieu va nous dire. Parce qu'on pourrait être tenté d'entendre ce que Dieu nous dit et partir dans la direction inverse, non ? Jonas. J'imagine Monsieur Jonas, l'homme qui entend Dieu lui parler, l'homme qui sait reconnaître la voix de Dieu. Et Dieu lui dit, Jonas, tu vas en direction de Ninive. Et Jonas, il a tellement bien compris qu'il est parti dans le sens inverse. Non ? Est-ce que vous croyez qu'il n'avait pas compris ? Et pourquoi il est parti dans l'autre sens? Parce que ça ne lui plaisait pas ce que Dieu lui disait. Alors, il aurait pu partir un moment et après revenir, comme ça a pu être déjà le cas pour d'autres. Et dire, Seigneur, oh non, si je vous disais, vous prenez la direction nord. Je ne sais pas vous, mais on se dit, on n'a pas l'habitude. Dis-moi dans quelle ville je dois aller, c'est où le nord? Ah, c'est où le nord? Cavaillon, non, ce n'est pas le nord quand même. N'exagérez pas. Valence, c'est le nord, hein, quelqu'un a dit. Bon. Non, ce que je veux dire par là, c'est que parfois on a du mal à nous repérer avec certaines indications, mais quand Dieu nous parle, lui, il est clair dans ce qu'il nous dit. Non? Et Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il continue dans sa mauvaise direction et il lui arrive des bricoles. Il se retrouve dans un bateau, dans un navire où finalement il est secoué par la tempête. Les navigants qui sont là, ils le regardent, ils disent « Mais comment ça se fait que toi tu restes calme? Nous on est tous en train de crier à nos dieux, à nos idoles et toi tu... T'as fait quoi pour être là toi? T'as fait quoi pour nous mettre dans cette situation ?» Parce que finalement, la mauvaise décision de Jonas produisait des problèmes à ceux qui étaient avec lui dans le navire. Parfois nos mauvaises décisions produisent, excusez-moi, des tsunamis dans nos familles. Et tsunami, c'est peu, non? Et finalement, il dit, bon, jetez-moi par bord et vous verrez, le calme va venir. En réalité, c'est ce qui s'est passé, mais pas pour Jonas. Jonas, il finit dans le ventre d'une sardine. Celle qui a bloqué le port de Marseille. C'est une grosse sardine. Hein? Un gros poisson, c'est pas lequel. En tous les cas, il a pu faire une visite depuis l'intérieur. Hein? Et là, la parole de Dieu nous dit qu'il a été amené à méditer, à réfléchir. Et c'est quand il a compris, quand il a saisi, quand il a obéi, que le poisson, parce que Dieu lui a dit de le rejeter sur la plage, que le poisson a obéi. Moi, je me dis, même les poissons obéissent à Dieu. Et à la première fois qu'il lui dit les choses. Nous, on est plus têtus que les poissons. Hein? Parfois, on est tellement têtu dans notre tête qu'on avance, on avance, on avance, et pour ça, Dieu nous dit, c'est pas la bonne direction. Tu vas te faire mal. Tu vas voir. Et il nous avertit par la prédication, il nous avertit par une prière, par une parole de connaissance, et nous, on continue, on insiste, on persiste et on signe. Et quand on arrive face au mur, on se dit, Seigneur, pourquoi? Mais ce n'est pas le même pourquoi. En réalité, on devrait se dire, Seigneur, pourquoi je ne t'ai pas écouté? Ce n'est pas à Dieu de me dire pourquoi. C'est à moi de me poser la bonne question, pourquoi je ne t'ai pas écouté? Alors je disais tout à l'heure, un jour, quelqu'un m'a dit, il ne faut jamais poser la question à Dieu pourquoi. En lisant la parole de Dieu, moi ça m'est arrivé de voir des pourquoi. Les psaumes, il y en a plein, mais il y en a un qui m'a interpellé. Matthieu 27, 46. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si Jésus a posé la question, ce n'est pas parce qu'il doutait du Père. C'est parce qu'il se sentait plus aussi fort, puisque le Père avait détourné son regard. Je crois que quand on s'éloigne de Dieu, on perd des forces. On perd la capacité finalement de dire, Seigneur, oui Seigneur, je sais, j'ai compris, allez, je reviens à toi, je m'incline encore ce matin, nous avons été invités à prendre un temps pour réfléchir. Moi j'espère qu'on ne prend pas la Sainte-Seine comme quelque chose de religieux. Hein. Gardons-nous, parce que la Bible dit, voici ce qui se produit pour ceux qui le font indignement. Lisez le texte, vous comprendrez vite. Mais la parole de Dieu m'apprend finalement à de me dire, Seigneur, quand je m'éloigne de toi, forcément mon cœur et mon âme a du mal à faire face aux différents moments, aux différentes épreuves de la vie. Combien de fois le Seigneur est venu à votre secours? Et peut-être que dans les mêmes situations, mêmes circonstances, vous avez vu d'autres personnes faire le voyage avec vous. Mais parce que vous avez crié à Dieu, parce que vous avez mis votre confiance en Dieu, Dieu a changé, les événements ont changé, le mal en bien. Je crois qu'il est important pour nous de dire, Seigneur, j'ai besoin de comprendre. Le fait d'interroger Dieu ne veut pas forcément dire que nous doutons de lui, je le répète et je le répéterai. Mais soyons conscients de faire que attention à que certaines choses nous aident à non pas nous bloquer dans le questionnement. Bien des fois, lorsque le temps passe, l'incompréhension laisse place progressive à des réponses. On pourrait dire, Seigneur, pourquoi j'ai perdu mon travail ? M'est arrivé de perdre mon boulot. Seigneur m'avait mis à cœur d'aller voir une personne et on avait fait 1800 km pour aller la voir. Seigneur m'a dit, tu vas le voir et voici ce que tu dois lui dire. Cette personne était en dépression profonde, n'avait plus de travail depuis des années. Et quand on est arrivé, qu'on a eu l'occasion de discuter avec lui, de prier avec lui, de lui partager ce que le Seigneur a mis sur le cœur, dans les 3 jours qui ont suivi, il est sorti de sa dépression, Dieu lui a ouvert une place de travail et il y avait un changement radical parce que la parole qui venait de Dieu avait finalement transformé sa vie, il l'avait acceptée comme telle parce que Dieu envoie sa parole et sa parole nous guérit, mais il avait accepté, il avait obéi à cette parole, il avait pris une résolution. Sa vie était bloquée à cause d'un manque de pardon. Il a pardonné et à l'instant sa vie a changé. C'est incroyable, non ? Alors attention, ne faisons pas de copier-coller. C'était le cas de cette personne, d'accord ? Et en retour en France, eh bien je rentre et je trouve un courrier qui me dit « Vous avez été licencié. » Et là, moi, je dis « Seigneur, je ne comprends pas. Je t'obéis et en retour, je perds mon job. Je fais comment maintenant, Seigneur ?» Et là, le Seigneur m'a dit « Mets-toi à part. » Et prie. Ok. Les jours passent, les semaines passent, et j'essayais, certes, prendre du temps dans la prière, vous imaginez bien, quand on a une famille, quand on a une maison, quand on a des dettes, dire, Seigneur, il va falloir que je puisse faire face à tout ça. Tu m'as dit de prendre du temps, je le prends, mais pas trop non plus, Seigneur. Hein ? Et au bout de 30 jours, ça commençait à faire. Et j'étais là en train de placer des dalles avec une masse en caoutchouc et je frappais. Ça m'aidait. Des fois, ça fait du bien de canaliser nos questions dans le même sens, dans la même direction. Et je dis au Seigneur, Seigneur, maintenant j'ai besoin que tu me fasses passer une autre phase. Je comprends, tu veux changer la direction de ma vie, mais je te laisse faire. Une voisine qui passe. Elle me dit, ça va Emmanuel ? Je lui dis, ça va, mais je n'ai pas de boulot. Mais elle dit, attends, je vais parler à mon beau-frère. T'as préparé ton CV ? Non. Parce que le Seigneur m'a dit, mets-toi à part. Moi, je me suis vraiment mis à part. Hein. Et je lui dis, écoute, je le prépare, je te le donne ce soir. Quelques jours plus tard, une personne me téléphone. Bonjour, monsieur Nsinga, comment allez-vous ? Ça va ? Je lui dis, mais je n'ai pas de boulot. Elle dit, justement, je vous appelle, vous venez faire une journée d'essai. Bon, ok. C'était le mois d'août, donc faisait relativement chaud. Le rendez-vous était très tôt le matin. J'y vais habillé en habit presque d'été, un joli jean, une petite chemise, une petite veste légère. Et j'arrive là-bas et me dit, voilà, nous on travaille dans les congélos, température la plus chaude, 0, la plus froide, moins 30, avec une ventilation ressentie, moins 50. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ce pays ? Et il me dit, maintenant, vous allez vous changer, vous allez là-bas au fond, vous voyez, il y a un camion qui arrive avec des cochons, il faut les décharger. C'était des cochons qui avaient été qui revenaient de la boucherie, donc ils étaient suspendus, et moi je rentre là-dedans, je sens une odeur. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette odeur ? Seigneur, le cochon n'était-il pas impur ? Et le Seigneur me dit, pousse les cochons. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je vais arrêter de me plaindre, parce que ça, je sais faire, mais je vais apprendre à t'obéir, parce que ça, j'ai besoin de l'apprendre. Et Seigneur a permis que par ce travail, je puisse finalement sortir du travail de nuit que je faisais, où je ne pouvais véritablement plus servir le Seigneur, c'était compliqué. Et j'ai pu faire ma formation pastorale pour après rentrer à plein temps dans le ministère. 7 ans dans les congélos, je me suis rajeuni. Mais j'ai appris par ce biais que obéir à Dieu vaut plus que le sacrifice. Et que même quand nous on ne comprend pas et qu'on laisse Dieu faire les choses et qu'on laisse le temps à Dieu de nous amener à ce que lui veut, finalement les situations elles changent, l'incompréhension laisse la place progressive à des réponses parce que Dieu ouvre de nouveaux horizons pour nous. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans cette phase où vous avez besoin que Dieu ouvre de nouveaux horizons pour vous. Alors moi je vous invite vraiment à dire Seigneur, je veux faire ce que tu veux, non pas ce que je veux. Amen. Si interroger veut dire je suis dans l'incompréhension et j'ai besoin d'aide, super. Mais si nous disons pourquoi, acceptons aussi de faire le voyage. Dans le psaume 73, versets 16 et 17. Il dira, j'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai compris. Il a fallu accepter de faire le voyage pour arriver là où Dieu voulait amener le psalmiste pour qu'il puisse finalement comprendre. Mais nous, parfois, on veut comprendre tout. Maintenant, tout de suite, je ne bougerai pas si tu ne me le dis pas. Ça, c'est les gamins qui le font quand ils boudent devant le paquet de bonbons qui est fermé sur l'étagère. Je ne bougerai pas si tu ne me donnes pas le bonbon. Sauf que Dieu n'est pas un donneur de bonbons. Dieu est celui qui est un père et qui sait ce dont nous avons besoin. Alors certes, le voyage, il peut être pénible, il dira le texte. On peut remettre le texte, s'il vous plaît. Juste avant. Ce fut pénible à mes yeux. Peut-être qu'aujourd'hui, le voyage que tu es en train de faire te semble pénible. Mais regarde la suite. Jusqu'à ce que j'arrive. Alors si t'as pas encore, t'es pas sorti de la pénibilité, c'est que t'es pas arrivé là où Dieu te veut. Avance. Ne t'arrête pas. Parce que plus tu t'arrêtes, plus ça tarde. Il dit, et lorsque je suis arrivé au sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu, là où Dieu m'a donné rendez-vous, c'est là que j'ai compris. La parole de Dieu nous invite à faire ceci. Et bien souvent, Dieu utilise des chemins et des moyens que nous ne comprenons pas toujours, mais ce qu'il doit nous rassurer, c'est qu'en toutes circonstances, sa présence est à notre côté. Josué chapitre 1, versets 5 et 6, il dira ceci. « Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. » Je ne te délaisserai pas, je ne te abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car... Amen. Fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Alors mon frère, ma sœur, ne te laisse pas arrêter par la difficulté du chemin, ne te laisse pas à quelque part arrêter par le fait que tu ne comprends pas, mais accompagne ton cœur, accompagne ton cœur entre les mains de Dieu, amène-le entre les mains de Dieu et dire « Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te laisse agir. » Le seul facteur qui permet de réussir le voyage, je viens de le dire, c'est d'accepter la volonté de Dieu. Même lorsque la souffrance nous semble démesurée. Luc chapitre 22, versets 42 à 46, il dira, et c'est Jésus qui parle, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Il dit le texte, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. On prend l'angoisse Il pria plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse et leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous, priez, afin de ne pas être en tentation, de ne pas entrer en tentation. » Amen. Est-ce que Jésus n'a pas lui aussi éprouvé la difficulté du chemin ? Mais quelle est la voie qu'il a choisie ? Quelle est la voie ? Quel est le facteur ? L'obéissance ! Ah oui, non, mais pasteur, vous ne pouvez pas parler d'obéissance. Déjà, de nature, les enfants, ils n'aiment pas obéir. Je rassure les enfants, les adultes non plus. Mais Jésus a fait ce choix. Et c'est le choix qui devrait nous revenir à nous aussi, en disant « Seigneur, aide-moi à comprendre, aide-moi à saisir. » Psaume 73, versets 24 à 28. J'arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. Regardez ce qu'il dit le psalmiste. Psaume 73, versets 24 à 28. « Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les reins, pardon, verset 21, à partir du verset 21. « J'étais stupide et sans connaissance avec toi. J'étais comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel ? Et au-dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. » Le psalmiste y reconnaît son erreur de direction. Est-ce que nous sommes prêts à dire « Seigneur, ce matin, tant que je maigrissais, tant que je me figeais sur mes questionnements, tant que je me bloquais sur mes points de vue, sur mes positions, Seigneur, finalement, je me suis éloigné de toi. Mais Seigneur, dans ta bonté, dans ta miséricorde, Seigneur, tu as su aussi attendre et tu m'as saisi la main. Ce matin, le Seigneur voudrait te saisir par la main. » Et voudrait te ramener sur le bon chemin. Peut-être que tu t'es perdu, comme ça peut arriver à un enfant de se perdre. Et ô combien c'est rassurant de voir la main de son père le saisir. Et déjà la peine est passée. Hein ? Il est plus tranquille. Et dès que la main est prise et qu'il sent qu'il y a quelqu'un qui dirige sa vie, déjà il est tranquille. Il dit « J'ai plus besoin de m'inquiéter, je sais que je vais arriver à bon port. » Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu quittes ce lieu en te disant « Je sais que le Seigneur va me conduire à bon port. » Peut-être tu as peur de ton avenir, peur de ce qui est en train de se produire autour de toi, peur de ce que tu entends, mais je voudrais te dire que le Seigneur est en marche. Et que le but pour lui, c'est de nous conduire là où il est. Il dira, Père, que ceux que tu m'as donnés soient avec moi pour qu'ils voient ma gloire. Qui veut voir la gloire du Seigneur ? Ah mais il faut faire le voyage. Vous n'aurez pas une retransmission par satellite. Ah non, 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 non. Et vous n'aurez aucune information par les réseaux sociaux. Non. Il faudra rentrer dans la présence de Dieu. Il faudra être déjà, dès à présent, attaché au Seigneur et dire « Seigneur, je te suis. » Pourquoi ? Oui. Mais aussi Dieu, tu as toujours le dernier mot. Dernière référence, psaume 42, versets 11 et 12. « Mes os se brisaient quand mes adversaires me déshonoraient et me disaient tout le temps « Où est ton Dieu ?»« Pourquoi t'as battu mon âme ?» Peut-être ce matin, c'est la question que vous devriez vous poser. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis sur moi ? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Parlez à votre âme ce matin. Dites à votre âme, mon âme, Loue le Seigneur. Mon âme, pourquoi tu t'es abattu? Pourquoi tu laisses les circonstances t'empêcher d'avancer? Vous savez, quel qu'il soit le moment, nous avons lu tout à l'heure dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Quel qu'il soit le temps dans lequel nous nous trouvons, est-ce que vous croyez que Dieu est avec nous? Moi, je le crois. Même si je ne maîtrise pas le temps n'est pas quelque chose qui m'appartient, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Le temps que Dieu a prévu pour ma vie, je ne le connais pas. Mais je me dois d'être prêt en tout temps, non? Et je me dis, Seigneur, aide-moi à vivre le temps présent comme un moment de foi. Je ne veux pas remettre à demain la foi en disant, Seigneur, demain, je vais avoir de la foi. Parce que demain, il y en a toujours des demains à sortir du chapeau. Mais le demain de hier, c'est aujourd'hui. Peut-être que hier soir, tu t'es dit, demain, je mettrai de la foi. Eh bien, c'est le moment. C'est le moment de te dire, mon frère, ma sœur, ou toi qui es là pour la première fois, je veux placer ma foi en Dieu. Il y a des personnes qui tentent beaucoup de choses dans leur vie et ils n'acceptent pas de s'approcher du Seigneur. Et par la grâce de Dieu, parfois, sur le lit de mort, Dieu fait encore preuve de grâce. Mais ô combien sont partis sans avoir accepté la grâce de Dieu. Et là, c'est un voyage sans retour. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps. Et je voudrais vous dire ce matin, c'est le temps pour chacun de nous de dire, Seigneur, je veux te suivre, même si je ne comprends pas toujours pourquoi et où. Seigneur, je veux te suivre. Et je dis à mon âme, attends-toi à Dieu. Mon frère, ma sœur, dis à ton cœur, attends-toi à Dieu. Parce que moi, je pourrais te le dire, mais pour autant, il n'y a rien qui change. Mais si toi, tu le dis à ton cœur, il va battre autrement. Il va retrouver le rythme, celui de Dieu. Et Seigneur, je veux te célébrer encore et encore. Il est mon salut. Il est mon Dieu. Amen. Seigneur, ta parole nous encourage encore ce matin. Certes, avec nos capacités, Seigneur, et ce que nous sommes, Seigneur, à nous approcher de toi. Parfois, Seigneur, nous venons vers toi avec une pleine assurance. Par moments, Seigneur, nous doutons sur nous-mêmes, nous doutons sur nos capacités, nous doutons, Seigneur, de tout ce que nous faisons, parce que nous sommes perdus. Béni soit ton nom, parce que tu es celui qui vient chercher la brebis égarée. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu as accepté de laisser les 99 pour aller prendre celle qui, Seigneur, peut-être aux yeux des autres n'était pas de valeur, mais pour toi, Seigneur, chacun d'entre nous a une grande valeur. À la croix, tu as payé pour nous. Seigneur, je veux te prier encore ce matin que tu puisses interpeller les cœurs, Seigneur, et que tu puisses accorder paix à ceux qui sont dans des temps de troubles, dans des temps de difficultés, dans des temps d'épreuves, où il y a plein de questions qui viennent, Seigneur, et où parfois les questions sont tellement grandes qu'on évite ou on nous empêche d'écouter celui qui a les réponses. Seigneur, merci parce que dans ta parole, Seigneur, tu nous montres, Seigneur, que tu connais ce de quoi nous sommes faits. Tu connais nos capacités, nos qualités, mais tu connais aussi nos défauts. Et dans ta bonté, tu nous conduis, Seigneur, comme tu as fait avec le psalmiste, tu l'as amené, Seigneur, finalement à arriver dans ton saint temple, devant ta sainte présence. Et c'est là qu'il a pu comprendre. Alors je voudrais te dire, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur, davantage dans ta présence pour que nous puissions saisir. Que nous ne soyons pas de ceux qui passent à côté, Seigneur, mais que, Seigneur, nos yeux s'ouvrent véritablement sur le sens de quoi tu es en train de faire dans notre vie. Et s'il y a des changements d'orientation, Seigneur, pour certains, s'il y a des changements de vie pour d'autres, Seigneur, ce qui est important, c'est que, Seigneur, le voyage continue avec toi, en tout instant et tout moment, Seigneur, dans l'obéissance à ta voix, à ta parole. Seigneur, aide-nous, garde-nous, fortifie-nous, Nous te le demandons, Jésus-Christ. Amen.